Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
En RDC, les populations vivant en milieu rural ou dans la périphérie des grandes villes croupissent souvent dans la misère, dans la pauvreté. Faute de projets d'intérêt communautaire, il n'y a pas assez de projets. Alors les populations sont confrontées aux problèmes d'accès, par exemple à l'eau potable, des manques d'infrastructures, manque des centres de santé, d'écoles viables, ceci, cela. Alors comment arriver à s'organiser pour mettre en place des projets de développement communautaire, voilà, c'est les sujets. L'affiche dans cette deuxième partie de l'émission, Madame Brigitte Kanika, experte en développement, est notre invitée. Encore une fois, bonjour Madame.
Bonjour Jody.
Alors, dites-nous comment arriver à développer des projets d'intérêt communautaire dans un village, par exemple, ou dans une localité.
Alors, d'abord, avant de commencer par comment arriver à développer un projet, j'aimerais d'abord qu'on définisse le mot communauté.
C'est ça.
Parce que c'est un élément important. Selon le petit Robert, une communauté est définie comme un groupe social dont les membres vivent ensemble ou qui a de biens ou alors des intérêts communs. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de communauté. C'est comme ça que vous entendez, dans un milieu, on parle de communauté soit ethnique, soit une communauté religieuse, ainsi de suite. Donc, ils ont quelque chose qui les définissent ensemble et qui les mettent ensemble. Alors, c'est le premier élément. Et donc, en ce qui concerne la mise en place, d'un projet communautaire, le premier élément, c'est qu'il faudra d'abord que les gens soient soit ensemble, soit qu'ils aient un intérêt commun. Ça, c'est le premier élément. Et en ce qui nous concerne, nous sommes en train de parler de projet communautaire. Pour qu'il y ait un projet communautaire, il faudra qu'il y ait une communauté, c'est-à-dire les gens qui vivent ensemble. Ça peut être dans un village, ça peut être un quartier, ça peut être dans une province. Mais c'est l'espace géographique d'abord pour qu'on arrive à mettre ensemble un projet. Pourquoi l'espace géographique est très important? Parce que les gens qui vivent dans des coins éloignés, ils ont aussi des problèmes que je dirais entre guillemets éloignés. Donc les problèmes qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais les gens qui vivent ensemble, la plupart des fois, ils ont le même problème. D'où ces besoins-là de reconnaissance géographique. Et donc, pour arriver à mettre en place un projet communautaire, il y a d'abord trois points essentiels. Dont le premier, c'est d'abord la mobilisation dans le problème. C'est-à-dire quoi? Pas de problème, il n'y a pas de mobilisation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un problème qui se pose. Et je l'ai toujours dit sur ces antennes, l'élément qui met les gens ensemble, c'est l'existence d'un problème. Et c'est la réponse à ces problèmes que nous appelons communément le projet. Le projet est une réponse à un problème qui se pose. Et donc, au niveau d'une communauté, il y a un problème qui se pose. Et donc, les gens se mettent ensemble et ils veulent résoudre ce problème. Ça, c'est le premier élément.
Oui.
Et le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'il y ait la puissance d'agir sans désir. Je m'explique. Quand je parle de la puissance d'agir sans désir, c'est-à-dire, on veut valoriser la force qu'on a. On veut valoriser son empowerment qui est défini comme le développement du pouvoir d'agir individuel ou collectif. Et en ce moment-là, c'est-à-dire les gens se posent la question, qu'est-ce que nous sommes capables de faire ensemble? D'abord, il y a eu le premier élément, ce qui a eu un problème.
Oui.
Le problème, cela veut dire qu'est-ce qu'il y a comme situation non désirée. C'est la situation non désirée qu'on appelle problème. Quand on a déjà reconnu le problème, on se pose la question, qu'est-ce que nous sommes capables de faire ensemble? Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la prise de pouvoir est une porte ouverte, pas une injonction. Et là, je m'explique encore, cela voudrait dire tout simplement que quand on veut mener des actions communautaires, il ne faudra pas au préalable qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur pour vous imposer ce que vous allez faire. Malheureusement, c'est ce que nous constatons souvent et c'est ce que nous appelons entre guillemets, des projets de développement qui sont des projets qui viennent souvent de l'extérieur. Et quand ça vient de l'extérieur, ça ne peut durer que le temps que ça peut durer. Mmh. Et donc, c'est quelque chose d'éphémère. Parce qu'un projet est délimité dans l'espace et dans le temps. Et en ce moment-là, il n'y aura pas l'appropriation des résultats de ces projets par la communauté. C'est comme cela que nous voyons que la plupart des fois, quand il y a eu un projet qui est sur le terrain et que le projet arrive à terme, si vous arrivez dans ces milieux 2 ans ou 3 ans après, vous ne ressentez même plus qu'il y avait eu un projet quelque part.
Oui.
On en parle dans le passé. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur.
Il n'y a pas eu appropriation.
Il n'y a pas eu appropriation de la population.
Oui.
Et ici, nous sommes en train de parler d'un projet communautaire, c'est-à-dire c'est la communauté elle-même qui est actrice et bénéficiaire de toutes les actions qu'elle va mener.
Mmh.
Et ça, c'est un élément important. C'est pour cela que j'ai parlé au troisième niveau. La prise de pouvoir est une porte ouverte et non une injonction. C'est-à-dire quoi ? La porte est grandement ouverte, on y entre pour mener des actions ensemble, librement, sans qu'il y ait injonction de l'extérieur. Donc ce sont les gens qui ont pris conscience et qui se disent que nous devons agir. Et les gens se mettent à agir. Et en ce moment-là, les actions menées seront durables.
Nous savons que, par exemple, dans nos villages, vous avez un chef de village, vous avez des notables. Alors maintenant, qui prend l'initiative d'initier des projets d'intérêt communautaire ?
Bon, l'initiative peut venir d'une personne. Ça peut ou ne pas être un responsable, ça peut ou ne pas être un leader, mais la personne qui prend conscience qu'il y a un problème qui se pose. Et c'est cette personne-là qui, en premier lieu, peut avoir l'idée de réunir les autres. Ce n'est pas prendre l'initiative de commencer les actions, mais prendre l'initiative d'en discuter avec les autres. C'est celui-là qu'on appelle souvent le promoteur, qui éveille la conscience de la communauté, qui voilà, il y a passé. La plupart des fois, il y a des problèmes qui se posent, mais les gens font semblant de ne pas voir ces problèmes. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans la communauté, ça peut être quelqu'un de la communauté,
oui.
Ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui réveille la conscience de la communauté pour dire que voilà, il y a tel problème qui se pose et il faudra qu'on en trouve une solution.
Mmh.
Et donc... Et donc les gens, ils se mettent ensemble et ils commencent à réfléchir sur le problème, comment ça se pose, quel est le problème réel, parce que il peut s'agir d'un problème mais qui n'en est pas réel. Je prends un exemple.
Oui.
On est déjà parti travailler quelque part dans un milieu rural où il y avait un problème très sérieux de manque d'eau potable. Mais on arrive, on pose la question, quels sont les problèmes que vous avez ici? Et les gens vous disent que non, nous on a besoin de l'électricité. Dans des maisons en paille. Est-ce que c'est vraiment un problème réel?
Alors que vous avez des informations qui n'ont pas d'eau, ils ont des problèmes d'eau, difficulté d'eau.
Oui, parce que nous avons commencé par vivre dans le milieu,
oui.
on a observé comment les gens vivent. Il y avait un problème sérieux de mortalité infantile, dû au fait qu'il n'y avait pas de l'eau portable, il y avait toujours de maladies diarrhéiques et tout ça. Mais quand vous posez la question, on vous dit que non, nous, c'est l'électricité dont on a besoin. Parce qu'avec le boom de téléphones portables, les gens ont besoin d'avoir de l'électricité pour charger leur téléphone.
Oui, bien sûr.
Les autres peuvent vous dire que non, nous, le problème, c'est d'avoir des toitures, d'avoir des tôles. Et donc, il y a des problèmes divergents. Chacun le pose à sa manière et selon ses besoins à lui. Mais il faudra que ces problèmes, pour que ça soit considéré comme un problème communautaire, il faudra que ça soit un problème ressenti par toute la communauté. Et là, nous faisons ce qu'on appelle la prioritisation de problèmes.
Mmh.
Donc, on amène la population tous ensemble et on commence à discuter ensemble. Et il y a des problèmes qui sortent comme ça. On fait ce qu'on appelle les brainstorming, les tempêtes des cerveaux.
Mmh.
Et les gens vous disent tous les problèmes qu'ils veulent. Et ensemble, vous allez commencer à prioriser. Et dans la priorisation, il y aura la priorité des priorités qui en sortira pour dire que non, voilà pour nous, voilà la priorité.
Il faut commencer par ici.
Il faut commencer
par ici. Nous avons plusieurs besoins, mais voici le besoin prioritaire.
Prioritaire, et voilà.
Ouais. Comment développer les projets d'intérêt communautaire? Mais il semble que souvent, quand une personne, par exemple, au village, prend l'initiative de commencer quelque chose, et puis voilà, vite, on étouffe la personne, et c'est quelqu'un d'autre qui récupère le projet, et on apprend souvent que les Congolais ont du mal à s'organiser, vous prenez une initiative, et les autres vont chercher à vous combattre, tout ça, et à vous mettre des bâtons dans les roues.
Ça, c'est un constat que nous avons fait en travaillant sur le terrain, et la plupart des fois, c'est ce qu'on appelle les leaders. Qui veulent toujours eux soient les initiateurs. Et c'est pour cela que moi j'ai toujours prôné l'émergence de, non pas de leadership, mais de membership. C'est-à-dire que dans un groupe, qu'on trouve tout un groupe qui émerge, pas un individu. Parce qu'on a remarqué que souvent, effectivement, quand c'est seulement un individu qui émerge, il a tendance à récupérer tout ce qu'il y a comme initiative locale. Même si c'est une idée qui est venue d'une tierce personne, la personne s'en accapare et c'est lui qui commence à donner des injonctions. Et la plupart des fois dans des villages, ce sont les intellectuels du village. Soit les intellectuels, mais souvent, c'est souvent les intellectuels. Et malheureusement, les communautés les accompagnent dans ça. Et ils arrivent à étouffer même les initiatives que les gens avaient. C'est pour cela que moi, je dis que je prends toujours le membership, qu'il y ait un groupe dans le village qui émerge. Ce n'est pas toujours les intellectuels qui ont de bonnes idées.
Là,
les vieilles mamans
Mais
oui, elles
ont des idées.
Très bonnes idées parce que, avec l'expérience qu'elles ont vécue.
Même si elles n'ont pas étudié.
Ça n'a rien à voir avec les études.
Oui.
C'est ça ce que moi j'ai toujours dit. Malheureusement, nous avons toujours cru que ce sont ceux qui ont étudié
qui ont de bonnes idées.
Et si vous regardez très bien,
ceux
qui détournent toujours le projet dans le village, ce sont ceux-là qui ont étudié et qui étouffent les initiatives communautaires. Et c'est ça le problème que nous avons majoritairement en Afrique centrale, qui n'est pas en Afrique de l'Ouest, où les gens vivent dans la communauté et on n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui ont étudié qui prennent le leadership. Non, c'est pratiquement toute la communauté.
En Afrique de l'Ouest, même dans les villages, les gens sont très bien organisés.
Oui, ils sont très bien organisés. Malheureusement, au niveau de l'Afrique centrale, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, mais il y a des coins. Moi, je connais que à l'est du pays, il y avait eu quand même l'émergence de projets communautaires, parce que c'est là où on a commencé avec les ISDR.
À Bukavu, par exemple.
Et avec les sensibilisations, les gens ont pris conscience et les gens ont émergé. Et c'est là où sont parties les initiatives de projets. Les initiatives des ONG.
Mais à Bukavu, on dirait qu'il y a la culture associative au nord Kivu, au sud Kivu.
Oui, en tout cas, à l'est en général, il y a cette culture-là. Il y a cette culture, mais malheureusement, encore. Malheureusement, ça a été étouffé aussi par la multitude des organisations qui sont venues sur le terrain, les ONG, tant nationales qu'internationales, qui n'ont pas aidé à ce que les initiatives communautaires émergent, mais plutôt on a amené l'esprit de paternalisme. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle en termes de projets, mais les projets attentistes, c'est-à-dire quoi?
On attend les financements.
Voilà. Nous avons des initiatives, je suis en train de réunir de mamans, je réunis des jeunes, mais je cherche le financement. C'est le premier mot qui sort.
Financement.
Or, à l'époque, quand on avait commencé, ce n'était pas une question de financement, mais c'était plutôt des organisations qui se mettaient au niveau de la base. Chacun apportait sa petite pierre pour construire et pour commencer les actions. Et c'est ça ce qui a fait qu'il y avait eu vraiment cet engouement et le développement commençait à émerger.
Bien, comment développer les projets d'intérêt communautaire? Madame Brigitte Kanika, experte en développement, et notre invité, nous avons en ligne Amoury Hamzadi de Kamina. Vous voulez participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Comment développer les projets d'intérêt communautaire? Amoury, vous êtes à Kamina, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama, bonjour à l'invité du jour aussi.
On vous écoute.
J'avais une préoccupation à poser à notre invité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser un projet par la communauté en cas de la construction d'une école ou d'un centre de santé? Est-ce que c'est la communauté d'abord qui doit commencer à faire des briques, ainsi que l'ONG, donc partenaire, là, les doigts maintenant du tôle, ainsi que quelques fonds pour les maçons pour construire.
D'accord, merci. Ogi Bendelo, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Je dis Daniel Kachama, bonjour, je salue notre invité, je salue aussi toutes et tous ceux qui sont présentement branchés.
On vous écoute.
Merci, je dis, j'ai bien suivi notre invité. Et lorsqu'elle expliquait là, parce que le sujet est d'une grande importance, comment aux anciens projets d'intérêt communautaire. Je dis, tu as souligné un point très nécessaire. Vous savez que les autochtones, au niveau du village, ont beaucoup de polémiques, s'il vous plaît. Celui-ci se soulève pour arranger ou faire une chose bonne.
Oui.
Il y a beaucoup de combats, on décourage la personne, on fait ceci, on fait cela. Alors, ma seule question que je voulais adresser à la dame qui est notre invitée est de savoir, au cas du découragement, au cas où on décourage, où on parle en mal de celui qui veut faire une chose bonne, malgré on parle on parle contre la personne en question, mais elle est sur la bonne voie, comment est-ce qu'elle peut vraiment prendre le courage d'avancer? Est-ce que qui doit l'appuyer? Le gouvernement, l'entourage, ou bien comment vraiment faire pour s'en sortir de ces trous-là? C'était là ma seule question aujourd'hui. Bonne continuation des programmes sur les antennes de la radio Kati.
Bien, Madame Brigitte.
Merci beaucoup pour les questions. Monsieur Amoury a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser un projet de construction, soit d'une école, soit de l'hôpital, un centre de santé. Est-ce qu'il faut que la population commence à faire de briques et l'ONG va commencer avec le toll? Je crois que c'est un élément très important et lui-même, il a donné une partie de la réponse. Pour autant que, effectivement, c'est un projet communautaire. Et quand on parle d'un projet communautaire, comme je l'ai dit tantôt, c'est que la population bénéficiaire doit être aussi actrice de toutes les actions. Et donc, quand vous avez décidé de commencer une construction, soit une école, soit un centre de santé, je me dis qu'au préalable, ça doit être quelque chose qui est ressenti, un besoin ressenti par toute la communauté. Si cela est le cas, la communauté doit aussi participer, absolument. Participer. Je ne dirais pas aussi, mais absolument participer. Parce que c'est un projet communautaire. Et participer en quoi? En fabrication de briques. Par exemple, dans deux villages, on fait des briques adobe. Le briques adobe, c'est de la terre, de l'argile qu'on trouve dans le milieu. La population va commencer à faire des briques et tout ça. Ça dépend. Peut-être qu'il faudra qu'il y ait de paille, qu'il faudra qu'il y ait des gens qui doivent amener de l'eau. Et donc, ensemble, ils doivent organiser l'action. Organiser l'action, c'est-à-dire quoi? Nous allons commencer par où? Par où nous allons commencer? L'action devra nous coûter combien? Combien en termes de moyens humains? Combien en termes de moyens financiers si possible? Combien en termes de moyens matériels? Et vous allez lister tout ce dont vous aurez besoin. Et les gens vont voir, par exemple, il nous faudra une école d'autant de salles de classe. Autant de salles de classe, ça demande combien de briques? Est-ce que nous allons acheter des tôles ou nous allons utiliser le moyen de bord, c'est-à-dire utiliser de la paille ou de la chaume comme toiture? Et tout cela, la communauté ensemble doit en discuter et doit voir le moyen possible, les possibilités de faisabilité. S'il s'agit de briques adobe, qui sont capables de le faire? À quelle fréquence on devra le faire et tout ça. Et si vous avez pensé qu'il faudra faire des tôles, de la toiture en tôle,
oui.
Quelle année le coûte et où est-ce que vous allez trouver le moyen? Est-ce qu'il y a un partenaire qui est capable de vous aider? Mais moi je dis toujours, les apports extérieurs, moi je les considère toujours comme une troisième main. Une personne normale n'a que deux mains. Une troisième main, ça peut être un bâton sur lequel on s'appuie pour avancer.
Il faut d'abord compter sur l'apport local.
Il faut d'abord compter sur le niveau local.
Oui.
Et par rapport à la question de...
Guy, tu nous dis que généralement au village, il y a trop de polémiques, il y a trop de discussions autour des projets.
Oui, il y a trop de polémiques autour des projets, ce qui est normal quand c'est une seule personne qui s'élève et qui dit que voilà, je vais commencer une action. C'est vrai qu'on puisse vous décourager, mais c'est pour cela que j'ai dit de l'importance de la sensibilisation et de partage de la vision.
Il faut associer les autres, il faut mieux expliquer la vision.
Absolument. Pas expliquer, mais on doit avoir une vision commune. C'est différent. Non pas la vision du promoteur, c'est lui qui veut porter l'idée, mais plutôt la vision de toute la communauté. Ça doit être une vision partagée. C'est-à-dire quoi? La communauté doit se projeter dans le temps. C'est-à-dire, d'ici, nous sommes en 2014, d'ici 2020, voilà ce que nous, le membre de telle communauté, la communauté des Bashi, la communauté des Balouba, la communauté des Barega. Voilà ce que nous aimerions devenir. Et pour que nous arrivions à devenir ce que nous rêvons, parce que j'ai dit que la vision, c'est un rêve, donc on se projette dans le futur. Pour que nous arrivions
on veut, là par exemple, pensez, dans 10 ans, nous devons transformer notre village.
Devons avoir des écoles, nous devons avoir ceci, nous devons avoir cela. Mais pour y arriver, quelles sont les actions que nous devons commencer à mener aujourd'hui?
Maintenant.
Et ce sont ces actions-là qui vont nous amener à atteindre la vision que nous nous sommes donnée dans 10 ans. Et cette vision-là doit être partagée. Donc le rôle de celui qui a eu l'idée doit être d'éveiller la conscience et de permettre à ce que les autres adhèrent à son idée.
Bien. Moana Kilala nous appelle de Kalemi. Bonjour.
Bonjour, c'est un journaliste.
On vous écoute. Hein.
C'est Moana. Je voulais juste savoir, il y a encore un problème sur les villages, la plupart de nos villages. Vous pouvez présenter un projet, mais le projet n'est pas acceptable par la communauté. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire accepter ces projets-là par la population, pour que la population accepte ces projets. Qu'est-ce qu'il faut faire?
D'accord. Merci, Madame Brigitte.
Oui, si le projet n'est pas accepté par la population, c'est que ce n'est pas un besoin ressenti.
Non, ça peut être un bon projet. Les gens disent, lui, pourquoi il nous amène ce projet maintenant? Il a des gens qui vont le financer, il veut se faire de l'argent sur notre tête, pas question.
Mais justement, c'est pour cela que j'étais en train de dire...
C'est comme ça
dire,
que beaucoup de Congolais réfléchissent, on dirait.
C'est pour cela que j'étais en train de dire, justement, que quand c'est un projet qui vient de l'extérieur, quand c'est quelque chose qui n'est pas ressenti réellement par la population, par la communauté, quelle que soit... comment je peux dire, l'efficacité ou la façon dont on a conçu le projet, c'est un projet qui est déjà voué à l'échec. Parce que c'est pas quelque chose qui est ressenti. Je prends un exemple. Et j'ai discuté un jour avec un groupe dans un pays quelconque où le jeune ont dit que non, ils ont besoin d'avoir un bus. On discutait sur le projet communautaire. Ils disent non, nous avons besoin d'avoir un bus pour nous déplacer et tout ça. Mais ils ont trouvé que c'était un bon projet. Mais on a acheté les bus, mais personne n'est jamais monté dans le bus parce qu'il n'y a pas eu de moyens pour acheter son billet et tout ça, parce qu'il faut du carburant, il faut l'amortissement et tout ça. Et si je reviens un peu dans le problème de nos villages à nous, parce qu'il y a eu une fois un monsieur qui est venu dans un village, qui a trouvé que dans le village, il y avait un problème de manque d'eau potable. C'était un promoteur de projet. Il est venu, il a aménagé une source d'eau potable. C'était un très bon projet. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que, bon, quand on aménage une source, étant donné que ce sont le maman et les jeunes filles qui ont la charge d'apporter de l'eau dans la famille, et donc on a aménagé avec espoir d'alléger les tâches de maman pour leur permettre d'aller puiser de l'eau qu'on a mis, là, on a aménagé la source non loin du village. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'un mois après, personne n'allait puiser de l'eau dans le village, n'allait puiser de l'eau dans la source.
Personne.
Et pourtant, c'était un très bon projet. Mais après investigation, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a demandé aux femmes pourquoi
vous elles n'allaient pas
puiser de l'eau dans la source aménagée, qu'on a fait pour elles, entre guillemets, les femmes ont dit non, nous on n'en a pas besoin. Parce que quand nous allons à la rivière, c'est là où nous nous rencontrons tous ensemble pour discuter de nos problèmes dans le foyer. C'est là où on a le temps de partager. Et donc la source que vous avez mise à côté de nous est venue pour nous diviser. Nous n'avons plus le temps de discuter ensemble. et voilà un peu le problème.
C'est un problème sérieux.
Un problème sérieux. Est-ce qu'en aménageant cette source-là, on avait demandé aux femmes quel était leur problème réel? Est-ce que les femmes avaient besoin de cette source? Ce n'était pas ça leur problème. Donc leur problème était ailleurs. Et donc voilà un peu pourquoi la plupart des fois, nos projets que nous amenons, les projets qui viennent de l'extérieur, ont des problèmes pour réussir.
Parce qu'on n'a pas associé la population,
non,
on n'a pas posé la question aux gens.
Les gens ne se retrouvent pas dans ça. Les gens ne se retrouvent pas. Et j'ai toujours dit que la solution qui vient de l'extérieur, quelle que soit la façon dont cette question a été préparée, quel que soit le moyen qu'on devra mettre dans ces solutions, elle est une solution éphémère. Et c'est pour cela
que vous l'avez dit la fois passée, faire une chose sans moi.
Quand tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu es contre moi.
Voilà, tu es contre moi. Alors, lorsque, par exemple, les villageois s'organisent, ils ont un projet, on doit, par exemple, construire de bonnes fontaines, maintenant, se pose l'argent, le problème de moyens, l'argent, c'est... Où trouver le moyen?
Absolument, absolument, où trouver le moyen?
Oui.
Et la plupart des fois, chez nous, dans nos pays d'Afrique, la solution, la première solution qui vient dans la tête, ce qu'on nous amène, les « on » là, c'est qui? On a toujours des regards jetés vers l'extérieur.
Les partenaires, les bailleurs.
Que les partenaires amènent, que les partenaires nous amènent. Ce qu'ils ignorent, ce qu'un partenaire, quand il vient travailler dans un milieu, il a ses objectifs à lui, il a ses priorités à lui, qui ne sont pas toujours les priorités du milieu. Et c'est pour cela que je reçois beaucoup de coups de fil de gens qui m'appellent. Voilà, nous avons une initiative, nous avons commencé une action qui est vraiment très très bonne. On a commencé avec la communauté, mais nous manquons de financement. Les gens ne veulent pas nous aider, les gens ne veulent pas nous appuyer. Trop de plaintes. Et à chaque fois que je reçois des coups de fil, en tout cas, c'est rare, et là, j'en profite pour féliciter un groupe de jeunes qui est à Butembo, qui m'appellent souvent, mais eux, ils n'appellent pas pour demander, pour poser des problèmes de financement, mais plutôt, c'est pour poser des questions sur l'avancement de leurs activités. Quand ils ont des problèmes dans leurs activités, ils appellent pour que je les aide à voir comment ils peuvent aller de l'avant. Et ça, ce sont des choses à encourager. Mais ceux qui pensent seuls, uniquement, que nous avons commencé une activité, nous avons commencé un projet, comment faire pour avoir le financement? Ce n'est pas ça ce qui est important. Et aujourd'hui, je l'ai redit encore une fois sur ces antennes, trouver le financement, ce n'est plus facile parce que les bailleurs eux-mêmes, les gens qui avaient de moyens à l'époque, n'en ont plus aujourd'hui. Mmh. On a des problèmes, il y a la crise à travers le monde.
Oui.
Et donc, il ne faut pas attendre que les gens viennent de l'extérieur. Il ne faut pas attendre que les gens nous envoient de moyens.
Mais alors, où trouver des moyens maintenant?
Dans le village, il y a de moyens.
Mais cette population est pauvre au village.
C'est pas évident. C'est pas évident que la population est pauvre. C'est justement ce qu'on leur a mis en tête qu'ils sont
pauvres. Ils sont pauvres et pourtant ils ne le sont pas.
C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils sont pauvres pourquoi? Ils sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas voir plus loin.
Et pourtant, il y a les champs,
pauvres,
on a des activités au village.
On a les moyens de bord. On a les moyens de bord. Il y a les champs qui sont
la
là.
La chasse, la pêche.
Il y a la chasse, il y a la pêche. Ce sont les premiers moyens. La question que nous devons nous poser, avant que le bailleur de fonds arrive, avant qu'il y ait de l'argent, comment est-ce que les gens sont arrivés à se développer? Et tout ce que nous appelons pays développé aujourd'hui, comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui? Ils ont commencé par quelque part. Mmh. Et ils ont commencé par les ressources naturelles propres qu'ils avaient, qu'ils ont exploitées, qu'ils ont changées en ressources financières. C'est ça le problème. C'est là où nous devons commencer. C'est pas toujours... Moi, je ne suis pas toujours d'accord quand, à toute chose, les gens se disent « Nous sommes pauvres, nous n'avons pas de moyens. » Le pauvre, c'est celui qui n'a pas ses deux mains. Et même celui qui n'a pas ses deux mains, il a sa tête qui fonctionne. Et c'est là où on doit commencer.
Donc les gens peuvent s'organiser, par exemple, au village.
Ils se disent, faut commencer par la sensibilisation. Très important.
Ouais. Et puis,
c'est très important, c'est sensibiliser, c'est dire avec le moyen de bord, le moyen qu'on a, comment est-ce qu'on peut commencer à s'organiser et aller de l'avant.
On peut faire des cotisations.
Absolument.
Vous vendez vos produits des champs, vous amenez une part.
Pourquoi ne pas faire les champs communautaires? Pour faire avancer la communauté, on peut faire des champs communautaires. On commence par produire. On va vendre pour la communauté, on a de moyens, et avec ces moyens, on commence à faire des actions dans la communauté. Mmh. Ce n'est pas toujours nécessaire qu'on attende de l'argent de l'extérieur. Et on dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et donc, celle qui vous donne, c'est elle qui doit dicter ce qu'il faut faire.
Mmh.
C'est ça le problème. C'est elle qui doit vous dire, mais voilà, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Et c'est ça le problème, c'est pour cela que les choses n'avancent pas. Et quand le moyen là arrive à terme, c'est fini. Il n'y a plus aucune action communautaire.
Oui. Et Madame Brigitte, il semble qu'il faut aussi avoir des personnes intègres qui peuvent bien gérer les fonds. Parce que si, par exemple, on fait un champ communautaire, on arrive à réunir des moyens et voilà, quelqu'un qui gardait l'argent disparaît avec toute la caisse.
Mais oui, moi j'ai déjà vu une communauté qui s'est organisée pour commencer une petite caisse de d'épargne.
Mm-hmm.
Une petite caisse d'épargne. Ils ont pris quelqu'un. et la personne là a collecté les épargnes de villageois, mm-hmm. et quand c'était un peu consistant, il est parti, et quand il est revenu, il était devenu militaire. Il est allé se faire enrôler, il est revenu militaire, et comprenez que dans un village, un militaire, mais c'est
personne ne peut lui réclamer l'argent.
Personne ne peut lui réclamer l'argent. Et donc, l'intégrité,
oui.
l'intégrité, c'est un élément très important dans la communauté. Les gens qui vivent dans la communauté, ils se connaissent. Ils savent à qui est-ce qu'ils peuvent confier des responsabilités quand ils sont organisés. Mmh. Et ça, c'est un élément très important.
Ignace Ndala nous appelle de Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, je dis encore une fois bonjour à notre invité. Je voudrais juste demander à madame s'il n'y aurait pas de risque à mettre sur pied une ONG ayant pour base ou pour membre, je voulais dire, les membres d'une seule tribu, donc les frères d'une tribu qui constituent une ONG. N'y a-t-il pas trop de risques sur le plan social quant à l'avenir du projet?
Merci beaucoup, Ignace, pour votre question. En fait, selon la loi 004 sur l'organisation qui régit les ONG en général et les associations de développement en particulier, en général aussi, il est vraiment interdit de créer une ONG sur base tribale. À moins que vous soyez dans un milieu où il n'y a que les gens de ces tribus-là et vous voulez créer votre ONG qui ne peut avoir ses activités que dans ce seul milieu. Mais sinon, une des conditions pour mettre en place une ONG, c'est de ne pas le mettre, de ne pas avoir le membre seulement d'une même tribu,
oui.
ou même religion, ou même parti politique.
Quels sont les risques?
C'est interdit par la loi. Mmh. Le risque, c'est qu'il y ait, que les gens puissent se constituer, que ça puisse faire une sorte de bloc où les autres ne peuvent pas profiter, mmh. où les autres ne peuvent pas entrer, parce que dans un milieu, on trouve des gens qui ne sont pas toujours de même milieu. Même dans des villages, vous pouvez trouver des gens qui sont venus de d'autres ethnies.
Oui.
C'est possible. Mais quand vous avez restreint l'entrée, or, parmi les principes, c'est l'adhésion libre. Parmi les principes associatifs, c'est l'adhésion libre. Et donc, c'est un élément qui n'est pas acceptable dans un milieu parce que la loi ne le permet pas.
Madame Brigitte, est-ce que vous avez par exemple des exemples à travers le pays, dans nos villages, où la population s'est organisée et a réalisé des projets d'intérêt communautaire?
Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Et moi-même, j'ai déjà travaillé dans plusieurs communautés comme ça à travers le pays. Je travaillais dans plusieurs provinces. Où on a amené la population à se constituer en association communautaire, et les actions sont allées très loin. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple qui m'a beaucoup frappé et qui reste pour moi un exemple assez palpant. C'est ici, en Gamazo, qui est à Kinshasa,
mm-hmm.
à quelques kilomètres juste entre Maluku et Nzélé.
Dans la périphérie.
Dans la périphérie de Kinshasa, c'est un village de pêcheurs. Où, quand moi je suis arrivée, où j'ai commencé à travailler avec la communauté là-bas, il y avait moins de 20 huttes. Je dis bien huttes.
Mm-hmm.
Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait rien, il n'y avait pas vraiment des activités. C'était quelques pêcheurs qui venaient se retrouver là-bas. Et j'ai commencé à travailler, je crois, 4 ans, 5 ans après. Les actions de sensibilisation, les actions de formation. Aujourd'hui, c'est devenu une ville.
Ngamazo.
Je dis bien une ville. Parce qu'aujourd'hui, en Ngamazo, vous trouvez des grandes maisons à matériaux durables.
Construites par les pêcheurs eux-mêmes.
Par le pêcheur. Et de gens aussi qui ont vu que les activités ont émergé, qui ont vu qu'il y a une certaine potentialité d'émergence. Mmh. Il y a des gens qui ont acheté des parcelles, qui ont construit. Et aujourd'hui, c'est devenu une ville. C'est devenu vraiment une ville. Mais c'est parti de rien. Je n'ai jamais apporté de l'argent. Là où je travaillais, l'institution pour laquelle j'ai travaillé n'a jamais apporté de l'argent. Mais nous avons apporté des sensibilisations. Nous avons apporté des formations, des renforcements de capacités.
Mmh.
Et aujourd'hui, quand vous y arrivez, moi je suis très fière. Je suis très fière quand j'arrive là-bas. Même les petits-enfants disent toujours c'est le village de maman Brigitte. Mais je n'ai pas apporté de l'argent,
oui.
mais c'était plutôt l'éveil des consciences de gens qui étaient là.
Et les renforcements des capacités.
Et les renforcements de capacités.
Oui.
Les gens qui avaient de moyens, mais qui se disaient toujours qu'ils étaient pauvres. Parce qu'on avait cet esprit-là d'attendre que tout vienne de l'extérieur. Mm-hmm. Mais après les sensibilisations, après les formations, les gens ont compris que par leur propre organisation, ils peuvent faire quelque chose de leur milieu.
La politique de la main tendue n'est pas une bonne chose.
Hein. Non, ce n'est pas une bonne chose.
On n'a pas de financement, on attend les partenaires, les bailleurs.
Toujours, oui. Les partenaires viennent aussi avec ses objectifs. Et quand il vient, c'est parce qu'il a un besoin. Il a un besoin, il a ses objectifs à lui qui peuvent ne pas être toujours les objectifs de la communauté. Et donc, nous devons faire très attention. Nous, aujourd'hui, en RDC, on est en train de parler de la décentralisation. Et la décentralisation voudrait que les initiatives viennent des communautés.
Le peuple doit s'organiser à la base.
Le peuple doit s'organiser à la base. Il ne doit plus attendre à ce que Kinshasa décide, à ce que le gouverneur décide, à ce que le commissaire de district décide. Non.
T'attends, mon conduit, t'as l'avis sur les Cambodges.
Non. Aujourd'hui, avec la décentralisation, oui. C'est plutôt les gouvernements, tant provincial que central, qui doit attendre à ce que les initiatives viennent de l'extérieur et lui vient en appui.
Viennent de la base et les autorités viennent à l'appui.
Absolument.
Merci Madame Brigitte Kanika, experte en développement. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au capi.